Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chère Anne Sinclair. On est ce soir ensemble pour parler d'un livre qui est sorti, je crois, juste avant le confinement, pratiquement, donc en mars 2020, et qui s'appelle « La rafle des notables ». Il y a un bandeau, Compiègne, 1941. Votre livre tient tout à la fois de l'auto-histoire, sauf qu'il ne s'agit pas de la vôtre, encore que nous aurons l'occasion de constater que vous êtes aussi au centre du propos, et de l'enquête historique, pour évoquer un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale et précisément de la Shoah, celui qui est entré dans l'histoire sous le nom de rafle des notables, survenu le 12 décembre 1941. Votre grand-père paternel, Léonce Schwartz, a été raflé en même temps que 742 autres, vous dites dans le livre, israélites, parce que c'est comme ça qu'on disait en France à l'époque, tous des hommes, et donc terme utilisé par les Français, contrairement aux Allemands qui, eux, emploient le mot « Juden », le mot « juif ». Et ces personnes-là sont considérées comme des notables. Votre grand-père, Léonce, va parvenir à échapper à la déportation vers Auschwitz, alors que, interné à Compiègne, il va en être sorti et en sortir peu de temps avant le départ du premier convoi, ce qu'on appelle le convoi numéro 1, un convoi qui est parti de Drancy à 17h le 27 mars 1942, arrivé en gare de Compiègne à 18h40, reparti à 19h40 et arrivé à Auschwitz le 30 mars 1942 à 5h33 du matin. La précision est absolument effrayante car on voit que tout est noté, minuté, quasiment, vous voyez, à la minute près. La première question que je voulais vous poser, cher Hans, c'est les Allemands ont nommé ces Juifs « Einflussreiche Juden », autrement dit, des Juifs influents, littéralement. Comment ces notables, ces juifs dits notables ou influents, ont-ils été arrêtés le 12 décembre 1941 ? Comment ont-ils été identifiés ? Et qu'est-ce qui les a fait être déclarés, être influents ?
C'est un mystère. L'appellation notable a été décernée, non pas par moi, mais par les historiens. Elle s'est toujours appelée la rafle des notables. Et moi-même, je n'en avais jamais entendu parler. Et donc, l'objet de ce livre, et on y viendra, est de parler d'un épisode mal connu, connu des spécialistes, mais inconnu du grand public et a fortiori de familles, de gens qui ont été arrêtés, internés ou qui sont morts à Compiègne ou en camp de déportation. C'est une rafle, c'est la troisième rafle qu'il y a eu en 1941. Il y a une en mai, une en août et celle-là a lieu le 12 décembre, donc 6 mois avant la rafle du Veldiv, qui est devenue un peu la rafle emblématique, la rafle qui, parce que par son ampleur, par la collaboration du régime de Vichy avec l'occupant, a focalisé l'attention, de la même manière que Auschwitz est devenu le symbole du camp d'extermination, même si l'extermination a eu lieu dans des tas d'autres camps. Donc cette rafle était assez méconnue. Et elle est néanmoins extrêmement intéressante parce qu'en effet, elle a fourni le premier contingent, le premier convoi de déportés juifs de France vers Auschwitz. Et les précisions d'horaire que vous donniez ont été des précisions qui étaient données par Daneker, qui était le chef de la Gestapo, qui tanne Berlin pour qu'on lui envoie un train pour pouvoir le débarrasser de ses juifs, et qui avait donc mis au point tout l'organisation qui a été respectée à la minute près, puisqu'ils sont arrivés à Auschwitz, et certains, d'ailleurs, comme René Blum, le frère de René Blum, ont été jetés vivants dans un four crématoire dès l'arrivée. Alors, qu'est-ce qu'il est destiné à ça ? En effet, juif influent, pourquoi ? Parce qu'il y avait parmi eux, il y avait un homme qui s'appelait Pierre Mass, qui était un ténor du barreau, qui était sénateur de la République. Sénateur, arrêté, déporté, tué. son frère Roger Mas, qui était colonel de l'armée française et qui venait de combattre dans la Drôle de Guerre et qui était militaire et décoré. Bon, il y avait des historiens, il y avait des écrivains, il y avait le fils de Tristan Bernard, Jean-Jacques Bernard, il y avait des sommités de la science ou de l'histoire ou de l'intellectuel. Et puis, il y avait aussi des gens qui n'étaient en rien notables. Mon grand-père, par exemple, n'était pas un notable. Il était un petit commerçant qui avait une entreprise qui faisait de la dentelle. Et je ne sais pas pourquoi il s'est trouvé dans cette rafle-là. Vous savez, les Allemands, aussi bien organisés étaient-ils, il y avait un peu du flottement encore dans la solution finale qui n'était pas encore complètement mise au point. Mais ce que les Allemands voulaient, c'était en arrêtant des Juifs qui étaient pour la plupart, je dirais pourquoi pour la plupart, parce qu'il y en a qui ne l'étaient pas, intégrés depuis des siècles dans la société française, qui faisaient partie intégrante de cette société à tous les titres et depuis des générations. Ils voulaient que le seul fait d'être Juif les désigne à l'extermination et surtout ne les fasse pas se sentir à l'abri de quoi que ce soit. Pardon, je parle trop.
Non, c'est passionnant. C'est passionnant de vous écouter. Alors, il y a effectivement, page 56, vous donnez le détail, presque par profession, hein, de ces 743, hein, effectivement. Et puis, il faut dire que les Allemands en ont rajouté 300 pour arriver au compte de 1000, parce que c'était le chiffre que souhaitait Daneker. En fait, on va être à 1037, je crois. Hein.
1043.
Voilà. Ouais. Et ces 300, ils proviennent, ils ne sont pas du tout, j'allais dire, pardon de le dire comme ça, mais ce ne sont pas les mêmes catégories de population. Ce sont des Juifs étrangers qui ont été raflés, alors vous le dites dans le livre, pour la plupart, lors de la première rafle, qu'on appelle la rafle des billets verts, hein. C'est comme ça qu'elle est passée dans l'histoire, celle-là. Puis c'était en avril, effectivement, en 1941, ou mars 41. Ce sont des Juifs étrangers arrivés de Pologne, le plus nombreux, d'Europe centrale et orientale, dans les années 30, peu de temps avant la Deuxième Guerre mondiale, victimes de pogroms antérieurement commis, soit par les Russes, soit par des Allemands aussi. Hein. Ils sont très différents des 743 Israélites totalement assimilés.
Oui, en effet, ils sont différents de deux façons. Ils sont différents parce qu'en effet, ce sont des réfugiés qui avaient été livrés par la France aux Allemands, et ce qui était déjà criminel en soi. Ils avaient été internés à Drancy, et comme la rafle des notables n'avait pas donné le rendement aussi extraordinaire que Daneker le voulait, et on a ajouté ces 300 Juifs venus de Drancy, qui ont fait tout ce contingent qui a été emmené à Compiègne. Alors, différents, oui, ils étaient différents de milieux socio-économiques, différents de nationalité, bien sûr, et surtout, c'est ça qui est très intéressant, c'est différent dans leur appréciation même de leur sort et de leur relation au judaïsme. C'est-à-dire que les Juifs français qui s'appelaient eux-mêmes des Israélites, comme vous le dites, c'est parce qu'ils se sentaient français par-dessus tout. Ils étaient très, très loin du judaïsme. Certains n'avaient plus du tout de lien avec le judaïsme. Certains avaient épousé des non-juifs ou des non-juives. Certains n'avaient pas jamais mis les pieds dans une synagogue. Et ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Ils disaient je ne comprends pas, je suis ancien combattant de la guerre de 14, j'ai la Croix de Guerre ou j'ai la Légion d'honneur, j'ai toujours servi mon pays. Qu'est-ce que je fais là ? Et les juifs étrangers qui, eux, connaissaient à la fois les régimes dictatoriaux et fascisants de l'Europe centrale, voire même des réfugiés qui venaient d'Allemagne, leur disaient « on va vous expliquer, nous on sait ce que c'est que les persécutions, les pogroms, les discriminations ». Et donc il y a eu une sorte de, pas d'incompréhension, mais au départ, évidemment tout ça s'est fondu très très vite parce qu'ils se sont trouvés dans un même état de douleur et de souffrance. Et d'être aux portes de la mort ensemble, donc ça ne jouait plus au bout de très vite. Mais au départ, il y avait une sorte d'incompréhension entre ces deux populations-là. Alors vous me demandiez comment ça s'est passé le 12 décembre. C'est la seule moment où je me suis un peu éloignée de mes sources très exactement pour essayer de raconter comment j'imaginais que ça s'est passé. Je ne suis pas historienne, je n'ai surtout pas voulu romancer, mais j'ai voulu essayer de raconter comment se passait une rafle, et elles se sont toutes à peu près passées dans les mêmes conditions. C'est où la police française, en l'occurrence, là, c'était plutôt la police allemande et la Gestapo qui entrait...
Anne, plus que ça, vous dites, c'est la Wehrmacht aussi, hein, c'est des Feldgendarmes.
Oui, c'est les Feldgendarmes, la Wehrmacht, c'est... soi-disant, plus compréhensive que les SS. Et donc, on verra d'ailleurs qu'ils ont été d'une égale cruauté quand on entre dans le détail. Et donc, comment ils sont arrivés chez ces Juifs-là? Il y avait eu un recensement demandé par les autorités allemandes, auquel le gouvernement de Vichy de collaboration s'était en effet soumis, et un certain nombre de Juifs, à la fois par naïveté et puis parce qu'on ne pouvait pas imaginer, ce qui allait se passer. Et donc ils se sont dit, on va se mettre en règle, on nous demande de nous recenser, on va aller se déclarer à la préfecture. Et à la préfecture de Paris, notamment, il y avait un fichier qui a été appelé le fichier Tullard, dressé par M. André Tullard, qui s'appelait le fichier juif, qui recensait les juifs qui s'étaient déclarés. Et donc, les Allemands n'avaient qu'à piocher dans ce recensement. La preuve, ils sont arrivés rue de Tocqueville, qui est une rue dans le 17e arrondissement où habitaient mes grands-parents. Et dans cet immeuble-là, ils ont raflé aussi Louis Engelmann, dont j'ai pu lire les mémoires, et qui était l'étage au-dessus ou l'étage en dessous de mes grands-parents. Donc, ils ont raflé les Juifs de l'immeuble. Et donc, ils sont arrivés en 10 minutes. La police française était en couverture. Les Allemands étaient à la manœuvre. On fait faire une valise pour le principe, parce que personne n'avait besoin de valise. Et ils sont partis en 10 minutes à 7 heures du matin. Et petit à petit, se sont agrégés de tous les quartiers de Paris des autobus qui amenaient d'abord dans les commissariats d'arrondissement et ensuite dans un gymnase à l'école militaire, tous ces Juifs raflés dans Paris. Et ils se sont retrouvés là, attendant les arrivées pendant toute une journée, debout, sans manger, évidemment, sans boire, sans pouvoir s'isoler. C'était le début d'une tragédie qui a duré 3 mois, puisqu'à ce moment-là, on les a emmenés à la gare du Nord, mis dans un train. Et il s'avait été arrêté entre 5 et 7 heures du matin. À 1 heure du matin, ils sont arrivés dans un camp à Compiègne, presque soulagés d'avoir vu à la gare, quand le train s'est arrêté, Compiègne. Ils se sont dit, Compiègne, c'est à 70 km de Paris. Il ne peut pas nous arriver grand-chose. Ils craignaient d'être emmenés en Allemagne, ils craignaient d'être emmenés vers l'Est, l'Est étant quelque chose de fantomatique et de démoniaque. Et ce qui allait être leur destinée, mais ils ne le savaient pas. Et ils se sont presque sentis rassurés, sauf que ce camp de Compiègne était un des premiers camps nazis en France, c'est-à-dire qu'il était administré par les nazis, par la Wehrmacht et la Gestapo qui régnait en maître, qu'il n'y avait pas de chambre à gaz et pas de four crématoire, il n'y avait pas de mise à mort délibérée, mais c'était les mêmes conditions, Serge Klarsfeld le dit partout, c'était des conditions de camp nazi, de camp allemand, c'est-à-dire que les Juifs y étaient maltraités, pas nourris, pas de possibilité de se laver, aucune hygiène, ils mouraient de faim, de froid et de mauvais traitements. Ils ont tous perdu une trentaine de kilos en 3 mois. 50 à 60 sont morts pendant ce temps-là. Et s'il n'y en a pas eu d'ailleurs plus qui sont morts, c'est grâce à la solidarité des autres camps. Parce que Compiègne était une ancienne caserne, était un ancien camp de soldats qui avait été réquisitionné par les Allemands pour y interner les civils. Et il y avait dans ce camp... le camp A qui était composé de résistants et de communistes, le camp B qui était composé de Russes puisque l'Allemagne était entrée en guerre avec la Russie quelques mois plus tôt, et le camp C qui était à part, qui s'appelait le camp des Juifs, qui était beaucoup plus dur que tous les autres, c'est-à-dire ils étaient au secret, ils ne pouvaient pas communiquer, ils avaient une soupe par jour quand les autres, quelquefois, en avaient deux, ne pouvaient pas recevoir de colis, personne ne savait où ils étaient, et ils étaient destinés à mourir, et à mourir d'abord à petit feu là-bas, et ensuite, pour la plupart, ont été en effet mis dans un train qui est allé directement à Auschwitz.
Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur... la partie paternelle de votre famille, parce que par le livre 21 rue de la Boétie, qui est l'adresse de l'immeuble où vivait votre grand-père Paul Rosenberg et votre grand-mère. Donc vous avez parfaitement écrit, je crois que c'était en 2012, il me semble bien.
Heureusement, je n'ai que deux grands-pères. Et donc, je promets de ne plus embêter les lecteurs avec ma famille. Mais il se trouve que j'avais voulu écrire l'histoire de ma famille maternelle parce qu'elle était très emblématique d'autre chose. En effet, d'une histoire de l'art moderne, de mon grand-père qui était marchand d'art et qui a été obligé de fuir, lui aussi, pendant la guerre et dont la galerie était devenue... une officine de la Gestapo de propagande.
Incroyable.
Et donc ça, j'ai voulu écrire, et là, j'avais énormément de documents. Sur cette partie paternelle, je n'avais rien, presque rien. Et ça fait partie de mes motivations, c'est-à-dire, je m'en suis beaucoup voulu de ne pas avoir posé de questions. c'était pas un sujet tabou. Il y a des familles dans lesquelles on ne parlait pas de la guerre et on ne parlait pas de ce qui s'était passé. C'est pas le cas de la mienne. Mon père avait fait la guerre dans la France libre, dans les troupes de De Gaulle au Proche-Orient.
Votre modestie est trop importante, parce que votre papa, c'est pas n'importe qui. Il est le patron, pardon, je le dis, mais il est le patron de la radio de la France libre à Beyrouth, Robert Sinclair.
Oui.
Hein, donc c'est pas n'importe qui. C'est pas être péjoratif pour tous les combattants de la France libre, mais il vous montre même, vous le dites, quand vous êtes adolescente, il vous parle de sa guerre, il vous montre une dépêche où Goebbels, qui est, pardon de le dire, pas n'importe qui non plus, fustige le juif Sinclair qui déverse des tombereaux de propagande gaulliste sur Radio Beyrouth. Donc, c'est quelqu'un d'identifié, de connu, sa tête est évidemment mise à prix. C'est pour ça qu'il prend d'ailleurs le nom de Sinclair très tôt, comme beaucoup de juifs qui vont s'engager dans les forces françaises libres, pour aussi protéger la famille qui restait en France.
Oui, les Schwarz. Ça n'a pas été très efficace, malheureusement, mais c'était en effet l'idée. Quand il s'engage dans la France libre, il change de nom et donc après, il a gardé son nom de Sinclair, sous lequel je suis née aussi. Mais donc, mon père a pu rentrer à la Libération à Paris, juste à temps pour voir mourir son père, donc mon grand-père, qui a eu la chance, entre guillemets, de mourir dans son lit et pas dans une chambre à gaz, mais des suites de l'internement où il est tombé extrêmement malade. Il avait une soixantaine d'années, il était en pleine forme avant la guerre et il a été ravagé, détruit en quelques mois de privation et de maladie.
Il est décédé le 16 mai 1945, votre grand-père. Le 16 mai.
Huit jours
après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, voilà. Alors, cette famille Schwarz, elle vient d'un village dont on se dit décidément est incroyable, ce village. Parce que moi, j'ai eu l'occasion, ici d'ailleurs, d'en parler dans le cadre d'une présentation à la librairie avec Jean-Louis Debré, dans un de ses derniers livres. Hein. C'est le village de Westhofen, pas très loin de Strasbourg. Il y a au moins trois familles qui sont originaires de ce village. Les Blum, les Debré, dont le grand-père de l'arrière-grand-père de Jean-Louis va être rabbin de Neuilly. Donc, le grand-père Robert Debré, le fondateur de la pédiatrie en France, dont un des frères va être dans la rafle des notables, d'ailleurs, si j'ai
oui,
bien
Jacques
vu.
Debré, Jacques, frère. Oui.
Et puis la famille Schwartz. C'est tout ce que vous avez pu reconstruire.
Il y a même, j'ajoute, circonstance aggravante, ouais, qu'il y avait une partie de la famille de Karl Marx, mais du côté féminin, mais je promets, on n'y est pour rien.
Mais Marx était très attaché à la France, puisque ses belles-filles étaient au moins françaises.
Bien sûr, hein, bien sûr.
C'est tout ce que vous avez pu reconstituer de cette famille Schwartz, les origines ?
Oui, c'est une famille qui était... les archives et plus exactement la généalogie, j'ai pu remonter jusque... 1650, j'ai pas remonté beaucoup plus loin, avec une descendance de père en fils qui s'arrête à mon arrière-grand-père, donc le père de celui qui est interné, Léon Schwartz, et avait migré de Westhoffen à Strasbourg, c'était déjà un pas, et ensuite il est venu à Paris, et mon grand-père était né à Paris. Mais en effet, c'était une famille d'un petit village alsacien, comme il y en a des milliers, et où il y avait une petite communauté juive qui s'était constituée. Et donc je n'avais aucun document, et je n'avais surtout pas de document, je n'avais pas d'explication sur la façon dont ma grand-mère, parce que ma grand-mère, qui est une femme très courageuse, a réussi à sortir, oui, mon grand-père, non pas du camp, comme je l'ai cru quand j'étais jeune, mais du Val-de-Grâce, où il avait été transporté, parce que les Allemands, quand on était en très très mauvais état à Drancy ou dans un autre camp, les transportaient à l'hôpital et puis généralement venaient les rechercher pour les déporter quand ils étaient un peu rétablis, avec cette perversité extrême. Et donc, avant d'être redéporté ou reconduit à Compiègne pour faire partie de la déportation, ma grand-mère, et je ne sais pas comment, a réussi à le faire sortir. Là aussi, il y avait peut-être des ratés dans la façon dont le camp était, dont l'hôpital était gardé. L'hôpital du Val-de-Grâce, qui était une dépendance administrative de ce camp, le front de Stalag 122, qui était donc le camp de Compiègne, Royallieu, que je décris.
Vous dites que votre grand-mère, Margot Marguerite, s'est engagée en 1939 dans les infirmières, comme sa maman l'avait fait en 1916 à Verdun. C'est ça, hein, je vous ai bien lu.
Oui, oui, exactement. Mon arrière-grand-mère, Élise, dont je porte mon deuxième prénom, s'était engagée à Verdun. Et comme elle était d'Algérie, elle maîtrisait à la fois l'arabe et le français, et elle organisait pour les combattants, vous savez, qui n'en demandaient pas leur avis, d'Algérie, du Maghreb d'ailleurs, et qu'on enroulait de force pour aller se faire tuer dans la Somme ou ailleurs, elle organisait des cours de français pour eux, elle leur apprenait le français et faisait, paraît-il, j'ai retrouvé des traces, un couscous le vendredi soir pour ces soldats. Et ça, donc cette arrière-grand-mère était une femme très courageuse, et sa fille, donc ma grand-mère, que j'ai connue, elle est morte, j'avais 16 ans, s'est engagée, elle, dans la Croix-Rouge en 1940. Et moi, j'ai toujours cru qu'elle s'était servie d'une ambulance de la Croix-Rouge pour sortir mon grand-père. Je n'ai pas la moindre idée, peut-être l'a-t-elle fait, mais du Val-de-Grâce et pas du camp. Et donc, je ne sais pas comment ils se sont cachés les deux années qui ont suivi, mais ils se sont cachés en changeant de nom, c'est la seule chose que je sais, en essayant de ne pas porter l'étoile jaune et d'essayer de se dissimuler. Mais mon grand-père était tombé très malade et il est mort, et donc je ne l'ai pas connu.
Je reviens à ces... à ces notables, à ces juifs qui étaient donc complètement assimilés. En vous lisant, ça m'a refait penser à une réflexion que fait Primo Levi lui-même dans « Si c'est un homme », dans le rapport à la judéité. Vous citez à un moment le témoignage de quelqu'un qui s'appelle Gombel, qui est chef, on va dire, de la logistique du grand magasin les trois quartiers. Bon.
Gompel,
oui. Et vous dites, c'est quelqu'un.
Oui, Gombel a été un homme intéressant, collabo, secrétaire de Gide, mais c'est autre chose. Oui,
voilà. Et vous dites, cet homme était forcément cultivé, et un soir, il entend des chants yiddish interprétés par sans doute un des 300 venant d'autres origines. Et il découvre quasiment tout ça. Il dit c'est très beau. J'imaginais pas que ça pouvait être aussi beau. Et Primo Levi dit ça dans Si c'est un homme. Il dit c'est les nazis qui m'ont renvoyé à mon judaïsme. Et je voulais vous citer parce que à un moment vous écrivez ceci, c'est très beau. Ils n'avaient pas ou peu souffert d'antisémitisme dans leur vie d'homme. Ils n'étaient pour la plupart pas pratiquants, ne fréquentaient pas la synagogue, étaient même pour certains mariés à des non-juifs, c'est ce que vous disiez. Et ils se considéraient comme juifs, et s'ils se considéraient comme juifs, c'était davantage par tradition familiale que par une quelconque volonté d'appartenance. Et plus loin, Jean-Jacques Bernard, vous le citez page 94, dans son journal, dit « Mes compagnons comme moi ne savaient que penser français, ils ne savaient pas penser juif. »
Oui, c'est une phrase très étrange qui ne veut plus rien dire aujourd'hui parce que les identités sont multiples et mêlées et n'importe qui connaît aujourd'hui sait ce que c'est que des chants yiddish et les folklores de toutes les langues. Mais à l'époque, curieusement, ces bourgeois français, ils étaient un peu ballots, ils ignoraient beaucoup de choses et ils n'avaient pas de subtilité, de connaissance des coutumes et des civilisations d'Europe centrale et ils ne savaient pas grand-chose. Et justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est pour ça que je dis, ils s'interrogeaient, ils se demandent ce qu'ils font là. Et justement, Gompel et quelques autres, comme ce dentiste Schatzmann, finissent par se dire... Mais si on nous maltraite à ce point, si on essaye de nous faire mourir, c'est bien notre extermination qu'on veut. Et pour eux, c'est comme une révélation. Et on comprend que ce soit une révélation, puisqu'on sait bien qu'à la porte même des chambres à gaz, dans les camps, on distribuait des savons et on leur disait « Vous retrouverez vos vêtements à la sortie de la chambre à gaz ». Donc c'est quelque chose qui était tellement peu compréhensible pour la raison qu'on comprend très bien que c'était inimaginable. Et d'ailleurs, il se rassurait, je disais qu'il se rassurait en voyant la ville de Compiègne écrite à la gare, mais il se rassurait aussi en voyant certains juifs qui, eux, avaient été raflés dans la rue, parce qu'il y avait une troisième petite catégorie où ils avaient raflé des gens à la sortie d'un métro ou Dieu sait quoi, qui n'avaient rien sur le dos. Et il se disait... on ne peut pas nous envoyer à l'Est, l'Est étant encore une fois à la fois barbare mais inconnu, on ne peut pas nous envoyer à l'Est parce qu'ils n'ont rien sur le dos, ils ne sont pas assez couverts. Ils projetaient sur les nazis une humanité que les nazis n'avaient évidemment pas du tout.
Alors ce camp est tellement particulier que François Mauriac va préfacer le livre de Jean-Jacques Bernard. En témoignage hein, de ce camp de Compiègne, je reprends les mots de Mauriac que vous citez, page 67. Il dit « Ce camp sans travaux forcés, sans torture, sans extermination, mais où le bourreau demeurait invisible. Il ne s'agissait que de laisser ses victimes mourir peu à peu de la faim. » Donc là, il est clair qu'on est dans un processus qui est l'extermination, et ce qui est très, très intéressant dans votre livre, c'est la concordance des dates. Parce que entre le 12 décembre 1941 et le 17 mars, ou le 20 mars, qui va marquer le départ 42 pour Auschwitz, il se passe la fameuse conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942. Donc il faut peut-être que vous remettiez de la grande histoire, si je puis dire, dans cette micro-histoire.
Oui, au mois de janvier 1942, il y a eu ce qu'on appelle la conférence de Wannsee, qui a été la mise en place de ce qu'on a appelé la solution finale du peuple juif et l'extermination voulue par Hitler et voulue par ses adjoints Himmler, Heydrich, Goebbels et les autres. Et donc, cette conférence qui a été extrêmement secrète a mis en place les rouages de l'extermination. Et à partir de ce moment-là, les camps de concentration qui existaient depuis 1933. Il y avait des camps en Allemagne depuis l'arrivée des nazis au pouvoir. Ces camps se sont petit à petit, notamment les camps de Pologne et même des camps d'Allemagne, se sont mués en camps d'extermination, où l'extermination a d'abord été artisanale, puisqu'au début, on les mettait dans des camions dans lesquels on mettait le pot d'échappement à l'envers pour les asphyxier, et peu à peu devenu industriel, avec des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et donc 6 millions, au bout du compte, de juifs morts dans des conditions abominables, et donc de façon très organisée, très industrielle. Et donc, ces juifs de France qui ont été raflés en décembre, l'extermination était déjà prévue dans les têtes. Hitler, de toute façon, le savait et l'avait même confié à Otto Abetz, qui était l'ambassadeur nommé auprès des autorités de Vichy dès 1940. Lui avait dit ce qu'il comptait faire des juifs. Mais tout ça a été prévu, mais ce n'était pas su. Et pourquoi ils sont restés pendant 3 mois à Compiègne? Tout simplement, ils auraient dû partir, ça devait être un camp de transit, et partir directement vers Auschwitz. Mais il n'y avait pas de train disponible, parce que les permissionnaires allemands qui revenaient du front de l'Est avaient pris tous les trains. Et donc, Daneker, le chef de la Gestapo en France, qui était un personnage hystérique, hurlant, atroce, qui vraiment d'une cruauté extraordinaire, était là tout le temps à tanner Berlin en disant « Mais quand est-ce que vous me donnez un train? Quand est-ce que vous me les déportez, ces Juifs ?» Et donc, il n'y avait pas de chemin de fer pour les emmener à destination. Et c'est seulement en mars qu'ils récupèrent les premiers trains. Et après, ça va être un flot continu, et notamment avec toutes les rafles qu'il y a eu en France et puis dans tous les pays, puisque la grosse fournée arrivée, ça a été les Juifs hongrois arrivés à Auschwitz. C'est d'ailleurs ceux qui ont le plus survécu, comme Elie Wiesel, qui a pu survivre, parce qu'ils sont restés peut-être un an à Auschwitz, ce qui est déjà miraculeux, quand ceux qui ont été évidemment déportés en 1942 étaient morts depuis longtemps. D'ailleurs, Mauriac, dont vous parlez, non seulement il avait préfacé le livre de Jean-Jacques Bernard, qui s'appelait très joliment « Le camp de la mort lente », j'aurais aimé trouver ce titre quand il parle de ce camp de Compiègne, parce que c'est vraiment ça, c'était la mort lente. Et Mauriac est celui qui a fait écrire à Elie Wiesel son premier livre, « La nuit », et qui lui a dit… Parce que tous ces déportés, quand ils sont revenus, et ça on le connaît bien, et quand ils sont revenus après en France ou ailleurs, ils ne parlaient pas. Pourquoi ? Parce que cette histoire, elle est irracontable. Les gens ne pouvaient pas la croire. C'était incommunicable. Et quand je dis dans ce livre que plus ça va, moins je comprends, je dois dire, et plus je lis, moins je comprends, plus je suis au courant, moins je comprends, parce que un esprit rationnel ne peut pas comprendre comment ça s'est pas passé au Moyen-Âge. Ça s'est passé un peu avant ma naissance, enfin, oui, quelques années avant ma naissance. Donc, c'est pas si vieux. Et donc, c'était un pays civilisé, comme la France, pays de Goethe, de Beethoven, de toute une culture. Et comment est-ce qu'on peut imaginer que des hommes fassent ça à d'autres hommes de cette manière, parce qu'il y a eu des génocides, et il y a eu les Khmer Rouges, il y a eu le Rwanda, il y a des génocides, les Rohingyas, les Ouïghours sont extrêmement maltraités, c'est une forme de génocide. Mais là, c'était une organisation industrielle, et ça, c'est nulle part dans l'histoire, ça n'est jamais arrivé.
Y a une question un peu personnelle, parce que au début du livre, vous dites, quand vous allez à Compiègne, sur les lieux, vous y allez une première fois, vous dites un peu comme un voyage initiatique, c'est l'expression que vous employez, puis vous y retournez un peu dans la conclusion de votre travail, et vous dites, vous avez ressenti pratiquement la même chose, enfin, non ressenti, si je puis dire, que ce que vous avez éprouvé à Auschwitz. Il se trouve qu'on en avait déjà parlé quand vous êtes venu. J'ai beaucoup travaillé, moi, sur les camps de la Pologne, et en particulier, j'ai travaillé au centre de recherche de Birkenau, d'Auschwitz et de Birkenau. Vous dites que vous n'avez pas eu de sentiment d'épouvante. Vous n'avez pas vraiment ressenti quand vous étiez sur place. C'est les écrits, les témoignages qui vous ont vraiment marqué dans la Shoah. Vous le confirmez ?
Oui, le premier livre que j'ai dû lire, c'était, j'avais 17 ans, je crois, ça s'appelait Treblinka, écrit par Jean-François Steiner. Et là, j'ai découvert ce que j'ignorais complètement, c'est-à-dire cette horreur. Et évidemment, après, j'ai tout lu de Primo Levi à Imre Kertész, en passant par, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, Ginette Colinca récemment, Marceline Loridan, et puis tous. Et tous les témoignages, bien évidemment, Charlotte Delbo et les autres. Donc, je trouve que la suggestion par l'écrit permet une représentation de l'horreur que quand vous allez sur place dans des lieux qui aujourd'hui... Moi, je suis allée à Auschwitz, c'était l'hiver, il faisait moins 20, j'avais des bottes fourrées, un manteau fourré, et je m'imaginais, les déportés en pyjama, les pieds nus dans la neige, et c'est inimaginable. Et donc cette étendue blanche avec le bois de bouleau derrière, qui donne son nom d'ailleurs à Osvieçim, ça paraissait presque beau. Enfin, c'est très difficile de se représenter l'horreur dans un lieu où vous ne voyez pas l'horreur, tandis que quand vous lisez, vous en êtes conscient, vous l'imaginez, vous la vivez, vous le comprenez. Enfin, c'est comme ça que moi, j'ai réagi. À Auschwitz, il y a deux parties. Il y a la partie Birkenau, que vous connaissez, enfin, vous connaissez tout ça, mais la partie Birkenau, qui était l'élimination industrielle, et puis il y a la partie Auschwitz, qui a l'air d'une petite...
C'est une caserne. À l'origine, c'est une caserne polonaise. Hein.
Voilà, et qui a l'air d'un petit village de briques presque britannique. Ça pourrait être une... et où il y a aujourd'hui le musée d'Auschwitz, où il y a évidemment ces horreurs absolues. Alors là, bien sûr, vous êtes saisis, mais j'y étais très préparée par des vitrines où il y a des prothèses, où il y a des cuillères en bois d'enfants, où il y a des biberons, où il y a des cheveux, où il y a des chaussures, etc. Là, c'est le musée d'Auschwitz. Mais à Birkenau, là où il y a 1 million de personnes qui ont été assassinées, vous ne le saisissez pas sur place. Et quand je suis allée à Compiègne, il y a un magnifique mémorial qui est très bien fait et sur lequel il y a des stèles en verre, sur lequel il y a le nom de ceux qui sont passés par le camp, y compris d'ailleurs des non-juifs comme Robert Desnos, dont le nom est gravé. Et je n'avais pas vu le nom de mon grand-père depuis, il y a été gravé parce que au moins j'ai fait ça pour lui. C'est froid. C'est bien de comprendre, d'avoir des instruments, mais pour moi, je n'ai pas ressenti ce bouleversement que j'ai pu ressentir à la lecture. Je voudrais ajouter une chose sur Compiègne qui est quand même très spectaculaire et qui est très significative, à cause probablement d'une sorte d'homogénéité, justement, d'éducation et de culture. Il y a eu dans ce camp, en tout cas pendant le premier mois et demi, parce qu'après, ils n'avaient plus la force de sortir de leur baraquement le soir, il y a eu des conférences tous les soirs. C'est-à-dire que sans papier, sans crayon, avec simplement leur force de résister et de se dire « on va essayer de faire marcher notre cervelle pour essayer, déjà pendant une heure, de distraire un peu nos co-détenus. » Pendant une heure, le soir, ils se réunissaient dans les chambrées pour écouter soit des récits de grands procès d'archives, d'assises, soit des conférences sur la science et l'électricité, soit des exposés sur le théâtre, soit une conférence sur André Gide ou Alphonse Allais, soit des fables de La Fontaine, enfin... une sorte de volonté, d'une façon de résister, peut-être simplement par la culture. Et je trouve que c'est très... Alors, au bout de février, à février, ça n'existait déjà plus, parce qu'ils n'avaient plus la force de sortir. Mais c'est déjà très, très manifeste.
Et vous dites, page 89, qu'il y a deux sujets qui étaient proscrits. L'Allemagne, par crainte des mouchards, et le problème juif.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. C'est-à-dire que comme ils n'avaient pas la même appréciation du judaïsme pour éviter de, bah de se disputer, parce que franchement, ce n'était pas le lieu où on allait se disputer. Ils évitaient ce sujet-là. Et l'Allemagne, parce qu'il y avait toujours un mouchard qui aurait pu se glisser et les dénoncer.
Alors, à la fin de votre livre, il y a un passage, et j'ai un petit peu écouté les présentations de votre livre depuis le déconfinement. Et j'ai trouvé que c'est peu évoqué, parce que c'est quand même tout à fait étonnant. Votre papa, Robert Sinclair, donc part aux États-Unis, vous-même naissez aux États-Unis, hein, vous revenez en France assez régulièrement, mais il part aux États-Unis, entre autres, parce qu'il est directeur d'une marque qui est une marque de L'Oréal, hein, et c'est pas rien, L'Oréal.
Non.
Elisabeth Arden.
Et ça s'appelait Elisabeth Arden, ça s'appelle toujours, oui. Et il ne fait pas partie du groupe L'Oréal. Alors,
d'accord, mais il est
Il est dans l'industrie de la cosmétique.
Voilà. Et donc, il fréquente un monsieur qui s'appelle Le Guay, alors qui lui est vraiment chez L'Oréal. Hein, voilà. Je dis quand même un mot sur L'Oréal, parce qu'il faut le dire quand même. Hein. Le fondateur de L'Oréal est Schuller. Hein, la marque est créée en 1909, c'est un chimiste. Hein. Il est le financier.
Schuller était cagoulard. Schuller était cagoulard.
Il est le financier de la cagoule en 1938, avec un certain nombre de types comme Delonque, comme Fiol, etc. Hein. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un jeu très, 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 très subtil que joue Schuller, en particulier avec celui qui va devenir son gendre, André Bettencourt, lequel André Bettencourt a très bien connu François Mitterrand, de Bénouville, François Dalle, entre autres au 104 de la rue de Vaugirard quand ils sont jeunes gens. Et L'Oréal, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, embauche un certain nombre de collaborateurs notoires et, d'une certaine façon, leur refait une identité, si je puis dire. Enfin, si ce n'est pas une identité, c'est une vie.
Oui,
quoi,
c'est un recyclage. Voilà, disons que c'était un recyclage.
Là, c'est une pratique... antérieure à l'écologie, on va dire, hein, sur le recyclage. Le Guay est le délégué du secrétaire général de la police de Vichy, qui est donc René Bousquet. Il est à Paris, Le Guay. Il va être, grâce à Serge Klarsfeld, en 1979, on disait à l'époque, inculpé pour crime contre l'humanité, mais il va mourir
comme
dans
Bousquet.
Son lit. Comme Bousquet, il va mourir dans son lit et non pas assassiné. Comme Bousquet, mais en 1989. Et votre papa, vous dites, a fréquenté Le Guay dans les années 50-60. Vous-même, vous dites, j'ai dû me promener avec eux dans la forêt de Fontainebleau. Ils ont une petite maison, une maison à Fleury en Bière, c'est ça?
Oui, c'était en Seine-et-Marne. Mes parents avaient une petite maison de campagne dans laquelle on allait. Et mon père a rencontré dans le village un collègue professionnel dont il ignorait complètement les antécédents. Et puis, un jour, sort le premier livre sur la rafle du Veldiv de Claude Lévy, qui s'appelait « La rafle du Veldiv », qui paraît en bonne feuille dans Le Nouvel Observateur. Et ma mère réveille mon père en lui disant « Dis donc, il parle d'un Le Guay, tu crois que c'est le même ?» qui était en effet le second de Bousquet, qui a mis au point avec Bousquet la rafle du Veldiv notamment, et qui a été le délégué de Bousquet en zone occupée. Et mon père dit « Tu penses, il y en a autant, Le Guay, c'est comme Dupont, enfin, c'est un nom très banal. » Ma mère, que ça tourmente, va au centre de documentation juive contemporaine, aujourd'hui le mémorial de la Shoah, fait une photocopie d'un document signé du nom de Le Guay. Mon père va au syndicat national de la parfumerie, donc le syndicat industriel de la cosmétique et de la parfumerie, et se fait sortir un courrier de Le Guay, c'était la même signature. Et là, mon père devient blême et dit « Mais... cet homme, je le vois le week-end, il vient prendre le thé chez moi. » Et ma mère lui vantait toujours, lui disait « Regarde, toi, t'as mauvaise mine, et Le Guay, il est rose, il dort bien, il prend l'air, il joue au golf, aère-toi comme lui, etc. » Et Le Guay, qui était un fonctionnaire de Vichy, qui appliquait les règles sans du tout avoir la moindre émotion ou cas de conscience, était un des rouages de l'administration de Vichy. Mon père découvre ça, il en est absolument meurtri, et il lui il dit à Le Guay, vous changerez de trottoir quand on se verra, je ne vous serrerai plus jamais la main. Et Le Guay avait été blanchi, on sait qu'à la Libération, il y a eu des procès en épuration, qui se sont passés pas très bien, quoi, que où l'épuration n'a pas été vraiment faite, et donc il a dû échapper à tout, et il a été en effet recyclé dans l'industrie cosmétique dépendante de L'Oréal. Aujourd'hui, je précise que L'Oréal n'a plus évidemment la même vocation. Je ne veux pas incriminer du tout le groupe.
C'est là, vous dites davantage là maintenant que ce qui est dit dans le livre, hein, puisque votre papa va quand même lui dire que Le Guay est quelque part responsable de l'arrestation de son papa. Hein, voilà.
Voilà, alors c'est là que mon père fait une erreur. Et c'est ça aussi qui m'a interpellée, c'est comment est-ce que mon propre père, peut-être parce qu'il n'était pas là, qu'il est arrivé juste quand son père est mort et que c'est, le lieu n'était pas de savoir si c'était les nazis ou les Français qui avaient arrêté, mais mon propre père croyait que c'était la police française. Ça aurait pu, à un autre temps, c'est ce qui s'est passé. En l'occurrence, là, c'était les Allemands, et je suis saisie par le fait que quelquefois, l'information, la transmission ne se fait pas directement. Et ce que j'ai voulu faire aussi avec ce livre, en fait, ça aurait été juste sur mon grand-père, je ne l'aurais peut-être pas écrit, mais comme j'ai découvert cette rave, j'ai voulu écrire sur ceux... Mon grand-père passe un peu comme une illustration de ce qui s'est passé, et j'ai voulu, moi, transmettre... en tout cas à mes enfants et mes petits-enfants aujourd'hui, et puis en me disant que si moi j'écrivais cette histoire qui est surtout connue de tous ceux qui ont travaillé sur la Shoah, peut-être si c'était moi qui l'écrivais, ce serait un peu plus connu du grand public, et c'est le cas. Je vais très vite là parce qu'on va peut-être passer la parole à ceux qui veulent poser des questions, mais je reçois depuis, je pourrais écrire un livre sur le livre, parce que depuis que ce livre est paru, et en effet il ne s'est trouvé dans les librairies qu'après la fin du confinement, donc fin mai, je reçois une quantité de courriers de gens qui m'écrivent sur leur famille qui s'est aussi trouvée à Compiègne, et je trouve ça bouleversant parce que le livre est un objet inerte sur des gens qui sont morts il y a 80 ans. Et la vie, tout d'un coup, ressort par l'arrière-petite-fille, la petite nièce. Et je vous donne un dernier exemple. Dans le cahier photo du livre, j'ai mis des photos, notamment de mon grand-père et de ma grand-mère, avant la guerre, et un dessin très bouleversant, fait de mon grand-père après 3 mois de captivité au Val-de-Grâce, par un camarade de détention, et je l'ai légendé, ce dessin est fait par un dessinateur hélas inconnu de moi, et ce dessin a un talent fou et rend une expression perdue terrible. Et bien, à la suite de ce livre, sa petite nièce et sa nièce m'ont écrit, m'ont dit, mais c'est l'oncle Marcel qui a été raflé en même temps, qui était dessinateur dans une revue de mode qui s'appelait L'Homme, qui avait 35 ans et qui, lui, a été déporté à Auschwitz. Il est retourné à Compiègne après le Val-de-Grâce, et il a été déporté, et il y est mort là-bas. Et donc, cet homme s'appelait Marcel Lehrmann, et moi, je ne le savais pas. Et donc, je suis heureuse aujourd'hui pour ses descendants de pouvoir dire que je lui dois beaucoup, parce que ce portrait m'a vraiment bouleversée par l'impression de désastre dans les yeux de mon grand-père.
Voilà, écoutez, chère Anne Sinclair, en vous écoutant, en vous lisant, j'avais en tête les versets de Coëlette, l'Ecclésiaste, qui servent de titre à Elie Wiesel. Tous les fleuves vont à la mer, et pour autant la mer n'est pas remplie. Mais je trouve que, quelque part, vous remplissez ces trous de mémoire essentiels. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.